Bonjour à tous. Bonjour à chacune et à chacun. Ça fait plaisir d'être parmi vous ce matin. J'avais eu l'occasion de venir il y a un certain nombre d'années en arrière pour donner un message avec Philippe Trameau qui est là derrière. On avait donné un message en tandem sur l'évangélisation. J'en ai un très bon souvenir. L'église était un peu différente. On était là-bas pour prêcher. Vous étiez là. Donc c'est sympa, c'est différent. Je vais pouvoir vous balayer comme ça pendant que je parle. Mais ça fait plaisir de sentir la présence de Dieu. Il y a un esprit de famille, vous êtes une belle famille. On sent l'amour de Dieu qu'elle a au milieu de vous, pour vous. Il vous aime. Il vous aime chacun individuellement. Il vous aime personnellement. Amen. Vous le croyez? Alléluia. Peut-être une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Michael Vanet, donc je suis marié à Estelle qui est au fond là-bas. Ça fait 11 ans qu'on est mariés, on a deux enfants, une fille qui va avoir 5 ans, Amaël, un garçon qui va avoir 2 ans, Noan, et puis on a le troisième qui est en route pour le début d'année prochaine. On habite à Arzier-le-Muy, donc on est sur la côte, même région. On n'y est plus pour longtemps, dans un mois et demi on change de vie, on quitte la région. On part sur la Broye pour des nouvelles aventures. Donc c'est une grosse étape qui est devant nous. On se réjouit de ce que le Seigneur a pour nous là-bas. Mais moi, je suis de la côte, je suis né sur la côte, je suis né à Nyon. Et la côte restera sur mon cœur jusqu'à la fin. Et j'espère revenir sur la côte une ou deux fois quand même. Au niveau professionnel, je suis dessinateur en génie civil. Et puis j'ai un petit pourcentage comme coordinateur du mouvement The Turning pour la Suisse romande. Voilà, comme ça vous avez une idée, hein. Je ne vais pas m'étendre, j'aimerais encore remercier David pour son invitation. J'espère que vous m'entendez bien, c'est compréhensible, super. On va passer aux choses sérieuses, aux messages. J'ai nommé le message de ce matin, connecté à Dieu pour faire sa volonté. Alors, quand on entend pendant la louange, les témoignages, plein de choses qu'on va dire, on se dit... Bon, est-ce que j'ai bien entendu? Je vais répéter des choses qui ont déjà été dites. Et puis après, on se dit, non, le Seigneur a vraiment quelque chose il a vraiment envie de nous dire quelque chose de particulier ce matin. Et c'est, je crois, vraiment dans la continuité de ce que vous avez vécu la semaine passée pendant votre week-end. Je vous invite à ouvrir la parole dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. On va lire le verset 34. Donc Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Je répète, Jésus leur dit, donc à ses disciples, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » J'aimerais prier. Seigneur, on veut ouvrir nos oreilles à ta parole maintenant. Tu es la parole vivante. Tu es là, on l'a dit, au milieu de nous. Et bien, au travers de ta parole, je te prie de te révéler à nous. Envoie ton esprit de révélation, nous donner des compréhensions nouvelles, nous interpeller, nous visiter personnellement et visiter cette communauté. Non pas par ce que je vais dire, mais par ta parole révélée. Tu es la parole. Amen. Je répète ce verset. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. On apprend plusieurs choses sur Jésus dans ce texte. J'aimerais en retirer trois. La première, c'est que l'une des priorités de Jésus, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, pas la sienne. La deuxième chose, c'est qu'il est envoyé par quelqu'un. Il n'est pas venu de lui-même. Et la troisième, c'est le pourquoi il était envoyé, pour accomplir l'œuvre de celui qui l'a envoyé, pas la sienne. Il y a un élément très fort qui ressort de ces trois points, c'est que Jésus n'avait pas le focus sur lui-même quand il était sur terre. Que ça puisse nous travailler. Il y a une double question pour moi qui se pose. Mais qui l'a envoyé? Et pour faire quelle œuvre? Alors on a une réponse très claire dans le chapitre précédent. Si vous avez votre Bible ouverte toujours dans Jean 4, vous passez à Jean 3, Jean 3, 16 à 18. Un verset très connu, surtout le début. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On a une réponse à nos deux questions. Dieu le Père l'a envoyé pour sauver le monde. Petite parenthèse, pas pour le juger, mais pour le sauver. Revenons au verset de Jean 4, 34, où Jésus déclare que sa nourriture, c'est donc de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, le Père, pour sauver le monde. Il y a une notion qui m'interpelle dans ce verset, c'est faire la volonté de. Premièrement, Jésus, il associe le faire la volonté de à ma nourriture. La nourriture de Jésus, c'est faire la volonté de son Père. La nourriture, c'est quelque chose de vital. C'est génial la nourriture, c'est génial de manger, il y a de la bonne nourriture. Mais plus que c'est génial, c'est vital. Si en tant qu'humain on arrête de manger, on dépérit et on meurt. Pour Jésus, il y a quelque chose de vital dans le fait de faire la volonté de son Père. S'il ne la fait pas, il va dépérir. Il va comme mourir, passer à côté de qui il est, de son appel. Il y a quelque chose de vital en lien avec la vie pour Jésus de faire la volonté de son Père. Et deuxièmement, on est en droit de se demander, mais comment Jésus connaissait la volonté de celui qui l'a envoyé? Alors là, on va passer au chapitre 5, le chapitre d'après de Jean. Les versets 19 et 20. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. » On l'a déjà entendu ce matin. « Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Jésus, il connaissait la volonté du Père car il entretenait une relation étroite avec lui. Il faisait ce que le Père lui montrait. Il voyait le Père faire et il faisait pareil. Il entendait le Père dire et il disait pareil. Et son ministère portait du fruit. Et il glorifiait le Père. Dans d'innombrables passages des évangiles, il nous est dit que Jésus se retirait pour prier. Des fois en journée, des fois tôt le matin, des fois tard le soir, des fois même la nuit complète. On peut dire que pour Jésus, être connecté à celui qui l'avait envoyé, le Père, c'était primordial pour faire sa volonté et accomplir ce pourquoi il avait été envoyé. Ben parlons-en de ce pourquoi il a été envoyé. L'œuvre. Sauver le monde. C'est pas rien. Au travers de sa mort et de sa résurrection, Jésus a rendu possible l'impossible. La réconciliation pour vous et moi avec le Père, notre Créateur. Et Jésus, en faisant cela, il a ramené le cœur des fils et des filles vers le Père. Dans Galates 4, les versets 4 à 7, Paul nous dit... Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils. On retrouve l'envoi. Né d'une femme, né sous la loi, pour racheter l'œuvre que doit faire Jésus, racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, fille. Et si tu es fils, fille, la Bible n'est pas tendre avec nous, avec tous les fils, 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 hein. Puis pourtant on n'est pas que des fils, mais aussi des filles. Tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu par Christ, des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Jésus étant notre grand frère, il est notre exemple. Ma fille qui a 5 ans, est un exemple pour mon fils de 2 ans. Il la regarde avec des yeux comme ça. Ce qu'elle fait, il veut faire. Il n'arrive pas toujours. Alors, il fait autant les choses bien que moins bien. Hein. Avec Jésus, c'est différent. On est sûr que si on le prend pour exemple, on va faire des bonnes choses. Hein, on est d'accord ? Donc vous avez vécu la semaine passée un week-end avec Stéphane Russell. Je ne sais pas si le week-end s'appelait comme ça, mais j'imagine, hein, c'était Vie sa vie, c'est ça? Eh bien, j'aimerais qu'on puisse reprendre ce texte de Jean 4, 34 qu'on a lu à propos de Jésus, en se positionnant dans « Et si je vis sa vie, ça veut dire quoi pour moi ?» Premièrement, faire la volonté de. Tout comme Jésus, faire la volonté de Dieu doit être notre nourriture. Ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous remplit. Dans 1 Pierre 4, 1 et 2, Pierre dit ceci. « Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. Nous sommes, si nous sommes des nouvelles créatures, des fils et des filles de Dieu, appelés à vivre selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui nous reste à vivre ici-bas. » Et dans 1 Jean 2, 17, c'est de nouveau Jean qui parle. « Or le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Il y a un lien entre faire la volonté de Dieu et l'éternité. La vie éternelle est pleinement liée au fait de faire sa volonté. Il y a la vie dans le fait d'accomplir la volonté de notre Père. Alors posons-nous cette question. Est-ce que faire sa volonté nous rend vivants? Est-ce que ça nous nourrit? Je vous laisse y répondre pour vous-même. Et est-ce que je me nourris de sa volonté? Je le prends pour moi. Je me la pose cette question. Est-ce que je fais de sa volonté ma nourriture? Deuxièmement, nous sommes aussi envoyés pour accomplir une œuvre. Nous aussi, en tant que disciples de Jésus, nous sommes envoyés par quelqu'un. Par qui? Jésus. Pour accomplir une œuvre. Laquelle? On connaît assez bien le texte de Matthieu 28, 18 à 20, le grand mandat. Jésus s'approcha des disciples et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, il y a l'envoi. Et faites de toutes les nations des disciples, il y a l'œuvre. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y a le comment et la promesse qu'il a avec nous pour le faire. Nous sommes envoyés par Jésus pour faire des disciples en annonçant la réconciliation avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 19 à 20, « En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Est-ce que cette parole-là, elle nous habite? Est-ce que cette parole est notre nourriture? C'est ce que Jésus met dans notre cœur et dans notre bouche. Soyez réconciliés. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés pour faire des disciples en annonçant la parole de la réconciliation. Waouh! Comment accomplir cette œuvre? Il y a une notion importante dont j'ai parlé avec, par rapport à Jésus, c'est la prière. Il en a été parlé déjà, il y a une question dans les témoignages ce matin. Tout comme Jésus, nous avons besoin d'une étroite relation avec celui qui nous a envoyés. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il est dit « Priez sans cesse ». C'est chaud ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne peux pas dire que j'y suis, hein, prier sans cesse. Que ma respiration est une prière, que je suis en communion avec lui constante, à penser à lui. J'y tends, et je pense que vous y tendez à cela. On a de la marge. Et là, on peut encore se poser une question. Est-ce que la prière est essentielle dans ma vie? Ou est-ce qu'elle est secondaire? Quel temps est-ce que j'offre au Seigneur pour le voir faire et l'entendre dire, afin de faire comme lui et de dire comme lui? C'est dans ces temps d'intimité avec Dieu, avec notre Seigneur et Sauveur, avec celui qui nous envoie, que l'Esprit Saint s'attache à nous, il nous revêt et il nous remplit. Et ça, c'est le deuxième point après la prière, le Saint-Esprit. On a besoin de lui, cet ami sans qui nous ne pourrions accomplir la volonté et l'œuvre de celui qui nous a envoyés. C'est lui qui déverse l'amour du Père dans nos cœurs, Romains 5:5, qui nous permet d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est en relation avec le premier commandement, hein. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons besoin de l'amour du Père pour les aimer. Et c'est aussi le Saint-Esprit qui fait de nous des témoins par notre parole et nos actions. Dans les Actes, chapitre 1, verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. » Un témoin, il ne se tient pas comme ça. Un témoin, il parle, il ouvre sa bouche et dit « J'ai vu, j'ai entendu, j'ai expérimenté. » C'est notre rôle, c'est notre mandat d'être des témoins, d'ouvrir notre bouche et d'annoncer cette parole de la réconciliation avec l'aide du Saint-Esprit. On n'est pas tout seul. Et nous sommes des témoins en action par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, les dons de l'Esprit, je ne vais pas vous les lister, mais pour manifester le royaume de Dieu, une parole de connaissance, une parole prophétique, une guérison, une délivrance. On manifeste le royaume de Dieu sur la terre. Tout un programme. Mais tous les jours qui nous restent à vivre, nous pouvons vivre ce programme et grandir dedans. En conclusion, j'aimerais vous dire ceci. Soyons connectés au Seigneur qui nous envoie afin de faire connaître et accomplir sa volonté pour que le plus grand nombre soit sauvé. Soyons remplis du Saint-Esprit, annonçons la parole de la réconciliation, puis faisons des disciples de tous ceux qui répondent positivement et qui, à leur tour, vont pouvoir faire des disciples. Pas des convertis. Jésus nous a envoyé faire des disciples. Une personne qui fait un pas avec Dieu, qui s'engage dans une relation avec Dieu, c'est un petit bébé. Et elle a besoin qu'on l'entoure, qu'on l'aime, qu'on en fasse un disciple, afin qu'elle-même puisse faire pareil après. J'aimerais inviter l'équipe de louanges, ce n'est pas du tout prévu, à venir. J'aimerais qu'on reprenne le dernier chant, qu'on puisse le chanter comme un engagement par rapport à ce que je vous ai partagé. Ça se marie très bien avec la vision de votre communauté et tout ça. On m'a dit que la vision de votre communauté, c'était de vivre et partager l'amour de Jésus-Christ sur la côte. C'est ça ? C'est une magnifique vision. Une belle mission que vous vous êtes donnée. Parce que Dieu désire que tous soient sauvés. Et il a besoin de vous pour que vous soyez ses témoins, pour que vous annonciez la parole de la réconciliation, afin qu'ils puissent entendre et y répondre. Je reprendrai après.
Je désire entendre ta voix. Je désire écouter ton cœur, recevoir ta pensée, ta volonté. Je
Cette prière, on peut la faire individuellement dans une dynamique personnelle, mais je crois qu'on peut aussi la vivre en tant que dynamique d'église, que le Seigneur nous parle en tant que communauté.
Amen, amen, merci. On me dit que j'ai à peu près 7 minutes encore. J'aimerais vous parler du turning. Et pour vous parler du turning, j'aimerais qu'on lise un verset. C'est le verset après Jean 4, verset 34. Le verset suivant, le 35, où Jésus dit « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. » Amen ?
Amen.
Amen ?
Amen.
On a besoin du regard de Jésus pour voir les champs qui sont blancs. 4 mois avant, les champs ils devaient être verts encore. Et lui, il a dit, regardez, ils sont blancs, parce qu'il voyait la moisson. Et c'est la plus belle des leçons que nous avons apprises avec le turning en 2019. C'est qu'il y a une moisson qui est prête. Il y a une moisson qui est là autour de nous. Hier matin, nous étions 4 adultes et 4 enfants à Gland, pour sortir dans les rues, partager l'amour de Dieu et inviter des inconnus à répondre à cet appel de se réconcilier avec Jésus. Nous avons marché pendant 1 heure dans les rues de Gland. Alors le samedi matin, il fait beau et chaud, il n'y a pas grand monde. En 1 heure, nous avons eu l'occasion de prier pour 8 personnes, de bénir 8 personnes qui se sont arrêtées, qui ont accepté d'entendre l'évangile, d'être interpellées et de recevoir une prière de bénédiction. Sur ces 8, il y en a 3 qui ont fait une prière d'engagement, une prière de conversion. Amen. J'ai entendu un amen. Il y a une moisson qui est là. Sur ces 3 personnes, il y en a 2 qui ont donné leur contact pour pouvoir démarrer un processus de discipulat ou de pré-discipulat, comme on appelle dans le turning. C'est génial. C'est sur la côte. C'est à Gland. C'est aujourd'hui. Enfin, c'était hier. Mais si on y va aujourd'hui, c'est pareil. C'est pareil, parce que c'est les chiffres qu'on a quand on sort dans les semaines de mission du turning. Il y a une moisson qui est là. Certes, tous ne sont pas mûrs. Parce que ce n'est pas comme un paysan qui plante à une certaine date pour récolter à une certaine date. Et qu'il y a un processus qui fait que tout arrive à maturité au même moment. Ce n'est pas la réalité qu'on vit. Il y a des épis qui sont à toutes sortes de maturité. Il y a des graines, elles sont encore sous terre. Il y en a, elles viennent de germer. D'autres, c'est des épis qui sont en train de monter, ils sont tout verts, ils montent. Il y en a, ils sont en train de jaunir, ils sont en train de prendre la maturité. Puis il y en a, ils sont blancs, ils sont prêts à être récoltés. Et quand on va dans la rue, quand on va auprès de nos copains, nos amis, nos voisins, nos collègues, on n'en a aucune idée de où ils en sont dans leur processus de rencontrer Jésus. On n'en sait rien. Donc on y va, et puis on va voir ce qui se passe. Et le turning, c'est sa vision. C'est d'aller dans la moisson. On ne va pas faire de l'évangélisation. Pendant 8 ans, j'ai fait des sorties d'évangélisation, une fois par mois. C'était dans ce cadre que j'étais venu parler avec Philippe. On a semé, c'était génial. Quand on parlait 1 heure avec une personne, on était tellement contents qu'elle savait apporter. Il était toujours dans la même optique, nous aussi. Bon. Dans le cadre du turning, on ne va pas semer. On va chercher les épis qui sont mûrs. On est envoyé dans la moisson pour faire des disciples. Et tout est fait dans le cadre du turning pour aller chercher cette moisson-là. On aime bien utiliser l'image du pommier. Enfin, on peut utiliser n'importe quel arbre fruitier, c'est à peu près pareil. Quand on va chercher une pomme sur l'arbre, si on doit tirer dessus, qu'on l'arrache, ça ne vaut pas la peine de la manger, elle n'est pas mûre. Si on va trop tard, elle tombe, elle pourrit. Par contre, quand on arrive vers le pommier, puis qu'on la tire, puis qu'elle nous tombe dans la main, c'est qu'elle est mûre. Et là, on sait qu'elle va être bonne. Elle va être juteuse, elle va être délicieuse à manger. Et c'est ce qu'on fait dans le turning. On va chercher les fruits mûrs. On utilise un script. Pas besoin d'avoir de la facilité à parler. Je suis quelqu'un d'assez extraverti. On me dit souvent, oui, mais moi, je ne suis pas extraverti. Je dis, c'est pas grave. On a un script, moi-même je l'utilise parce que je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment faire. Donc après avoir dit bonjour aux gens, je sors mon papier et puis je fais avec. Et puis c'est tellement facile. Tu n'as pas de la facilité à parler, pas de problème, le turning c'est pour toi. Tu ne sais pas quoi dire, pas de souci. On a un document qu'on lit avec les gens et puis ça se fait. Parce que c'est le Seigneur qui agit, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu. Nous, on doit y aller, on est envoyés. Tu dis peut-être que, mais moi je ne suis pas un évangéliste. Michael, c'est un évangéliste. Il y en a qui me le disent. Je ne suis pas sûr que je sois un évangéliste. Mais il y en a qui le disent. En tout cas, je encourage les gens à partager l'évangile. Et le turning, ce n'est pas fait pour les évangélistes. C'est ceux qui ont le plus de difficultés. Parce qu'ils ont leur habitude. Et dans le turning, on leur dit, ah, il y a un script, faites avec le script. C'est dur. Par contre, pour toi et moi, qui sommes des disciples de Jésus, ben, c'est pour nous. C'est fait pour nous équiper. C'est une semaine pour nous équiper en tant que disciples, pour faire des disciples. Je vais faire une semaine dans la moisson pour apprendre à récolter cette moisson. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pendant des années, combien de fois je me suis dit « Oh mince, j'ai eu une occasion de parler à quelqu'un, mais je ne l'ai pas saisi. » Ah zut, là j'aurais quand même pu lui proposer la prière. Moi, je ne l'ai pas fait. Parce que je ne sais pas quoi dire, parce que je ne sais pas quoi, comment faire. Et puis, je ne sais pas, vous êtes comme ça? Vous avez ces occasions, vous aimeriez la prochaine fois vous dire « Ah ben cette fois, je ne l'ai pas loupé. » Moi, j'aime bien dire « dégainer hein ». On apprend à dégainer avec le turning. Quand c'est le moment, tac, on est prêt. On sait quoi dire, on sait quoi proposer, on sait comment le faire, on peut même être équipé. J'ai des amis, des connaissances, pasteurs, après le turning, ils ont dit « J'ai dans mon portefeuille le script du turning. Maintenant, quand j'ai des occasions, je ne me pose plus de questions, je le sors et je peux amener les gens à Christ. » C'est tellement simple. Des pasteurs. Donc c'est pour vous. Et moi aussi. Une semaine pour vous équiper. Comment ça se passe le turning? On prend des soirées où on se connecte au Père. On se connecte à Dieu d'abord. On ne parle pas d'évangélisation. On ne parle pas de parler aux gens. On parle du Père. On se connecte à Dieu parce qu'on a besoin de son amour. On a besoin de grandir dans notre identité de fils et de fille de Dieu pour aller dans une posture de fils et de fille vers les gens qui ne le connaissent pas pour les inviter à devenir fils et filles. Puis après une bonne nuit de repos, on sort. Il y a toujours un temps de briefing où on est équipé, on nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comme ça après on y va. Léger, facile, par deux, on rencontre les gens. Hier, c'était génial. On était 2 adultes, 2 enfants. Les enfants, c'est magnifique pour aller à la rencontre des gens. Ça ouvre. Si vous avez des enfants, prenez-les au turning. Prenez-les dans les sorties. C'est génial. Et puis, ce qu'il faut se préparer, et j'ai envie de dire, c'est la plus grande des préparations avant de vivre le turning. d'avoir de l'espace dans votre cœur et dans votre agenda pour aimer et avoir du temps pour ceux qui vont répondre positivement. Parce que notre mandat, ce n'est pas de faire des convertis, mais c'est de faire des disciples. Et faire des disciples, c'est accompagner des gens pendant peut-être des semaines, des mois, voire des années, pour qu'ils entrent dans la maturité et qu'eux-mêmes fassent des disciples. C'est un sacré job, ça. Mais le Turning est là pour nous équiper. Donc moi, je vous invite à y participer. Il y aura une journée qui va se vivre ici, une soirée avec des sorties depuis là, et puis vous êtes invités dans le cadre du quartier général La Côte à participer aux soirées qui vont être vécues aussi à Gimel, à Gland, et on va sortir sur toute la région pour partager cette bonne nouvelle. Et je termine avec la prière. Vous invitez à la prière. Parce que sortir, c'est une chose, mais on veut préparer le terrain, on veut préparer nos cœurs. Et comment on le prépare? Ben avec la prière. Et là, il y a une semaine qui se termine, qui s'appelle Walk and Pray. Désolé pour l'anglicisme, hein, c'est marche et prie. Et pendant cette semaine, des chrétiens, il y en a de votre communauté qui l'ont fait, ils ont marché, ils ont pris le train, et ils ont prié pour la région, ils ont prié pour leur quartier, ils ont prié pour leur village ou leur ville, pour que Dieu prépare, prier pour le salut. Alors ça se termine aujourd'hui, cette semaine Walk and Pray, on a une application qu'on peut télécharger, après on se connecte dessus, puis on marche avec l'application ouverte, et quand on termine, quand on rentre à la maison, eh ben ça se note sur l'application, puis on voit la carte partout des chrétiens de Suisse romande en prier. On peut mettre une parole, une pensée, une prière dessus, et puis on voit qu'on n'est pas tout seul dans un mandat qui nous est donné. J'aimerais vous inviter à le faire, même si ça se termine aujourd'hui, l'application est ouverte jusqu'à la moisson, et puis je crois savoir que vous avez aussi quelque chose de prévu qui sera annoncé plus tard au niveau de l'Église. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie et que ça puisse faire suite à votre week-end de la semaine passée et vous permettre en tant qu'Église, de communauté, d'entrer dans la vision que vous vous êtes donnée. Merci pour votre écoute, soyez bénis. Thank you.